Le Chat Noir Productions vous présente, de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, aux éditions Flammarion, Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, narrant toute l'histoire de la techno-music, racontée et vécue par Laurent Garnier, des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music.
Eh oui, Electrochoc est de retour en ce mois de septembre. Bienvenue à tous dans la nouvelle émission. On démarre tout de suite la 9e de la série. Pour cette 9e émission, Laurent nous emmène au cœur de ce chapitre 7, charnière du livre, jusqu'aux États-Unis, où il fera la découverte d'Underground Resistance, un des labels mythiques de la techno de Détroit. Bienvenue dans The Final Frontier. La techno est, à l'image de Détroit, une erreur totale. Ce serait comme enfermer Kraftwerk et George Clinton dans un ascenseur avec un séquenceur pour seule compagnie. Dixit Derrick May. We created tomorrow and live in your imagination. We will never die. Underground Resistance. Mon avion atterrit à Détroit aux alentours de 17h, heure locale. Je subis plusieurs contrôles sans savoir exactement pourquoi. À la fin, le flic se lasse, m'abandonne un tampon rose sur mon passeport. Je passe à la douane, franchis les portes de sécurité et je sors. Je saute dans un taxi, donne au chauffeur l'adresse de Kenny Larkin, qui m'attend dans sa maison d'une banlieue blanche. La voiture s'emballe, file sur le périphérique aveugle. Une fois franchi l'invisible frontière délimitée par les panneaux Downtown Detroit, je distingue les larges avenues de la ville. Il fait nuit. Les murs lépreux défilent dans la pâleur des phares comme autant de mausolées raidées au bord de l'écroulement. Je vois au loin se profiler des tours estampillées G et M. Le chauffeur de taxi pointe les tours du doigt comme s'il me montrait les ruines d'une fierté locale. « You see, right there, it's the General Motors Towers. » Au sommet de ces tours de verre et d'acier, les initiales rouges et bleues contemplent Détroit qui agonise. Dans le taxi, j'essaye de me souvenir. Quand ai-je entendu prononcer le nom de Detroit pour la première fois? Dans les années 90, via la techno? À travers la soul de Motown? Soul et techno? Deux déclinaisons d'une même histoire qui parle de souffrance et de sincérité. Une chose est sûre, dans mon esprit, Detroit fut immédiatement affilié à l'idée de musique. Pour tous ceux qui, comme moi, ont fait leur éducation à travers les disques, Detroit est une marque de qualité, des explorations jazz et rhythm and blues, jusqu'à l'invention du funk futuriste de George Clinton, en passant par l'expression de la colère chez les MC5 ou les Stooges et l'inoubliable soul de Motown. Pour l'Amérique, qui peine à se souvenir, Detroit est un point lumineux dans la nuit culturelle de ce pays. Pour les Européens, elle est un fantasme d'innovation, de swing et de perfection. Et pour des gens comme moi, Detroit, c'est la mère de la techno, la terre de douleur où le jazz, dernière grande musique du siècle, est venu se muter en musique électronique. Car la techno peut être vue comme le prolongement urbain du jazz. De John Coltrane à Derrick May, ce sont les mêmes obsessions, l'espace, le temps, le groove et une infinie mélancolie. Je suis à Detroit pour des raisons qui me taraudent, sentir les vibrations de la ville et rencontrer mes maîtres techno, tenter de comprendre la pureté et l'immense tristesse dont est imprégnée leur musique, tâcher de saisir pourquoi cette musique draine autant d'émotions, autant de dureté, d'expérience et de beauté. Je m'imaginais débarquer dans une ville en ruine, batailler pour cerner le mystère de Detroit, interroger tout le monde, questionner chaque signe. Mais tout est déjà inscrit dans l'histoire de la ville. Detroit. L'âge d'or économique lorsque, à l'instar de Manchester pour l'Angleterre, Detroit devient la grande expérience industrielle américaine et accueille plusieurs milliers d'ouvriers venus de tous les États-Unis pour trimer dans les usines automobiles Ford, les blacks restant cantonnés aux fonderies. La diaspora grecque fonde le quartier de Bricktown et la première communauté noire de la ville est parquée dans le ghetto de Black Bottom. C'est là, sur Hastings Street, que se dresse le premier temple de Nation of Islam. En 1932, au sortir du crash boursier, Detroit est surnommée la ville verte. Il y a plus d'arbres au kilomètre carré que dans n'importe quelle autre ville américaine. La Seconde Guerre mondiale marque le second âge d'or de Motown, qui devient l'arsenal de la démocratie. On construit des B-52s dans les usines Ford et des tanks chez Chrysler. Le jazz apparaît, le ghetto de Black Bottom est rasé pour laisser place à une autoroute. Et en 1959, Motown enfante Motown, fierté culturelle de la communauté noire. Puis, la lutte pour les droits civiques éclate aux États-Unis. Et en juillet 1967, quelques semaines après les événements de Watts, Detroit vit 3 jours d'émeutes sanglantes. Enfin s'amorce une lente descente. La fermeture des usines automobiles, la perte des idéaux, la fuite de la communauté blanche vers les banlieues à mesure que le ghetto s'étend. Et dans les années 80, l'arrivée massive du crack dans les ghettos. La techno de Detroit parle de toutes ces épreuves. Dans cette musique pétrie de drames, on sent la force d'une vie qui refuse de s'éteindre. Ici, les mots sont accessoires, tout tient en quelques notes, répétées à l'infini. Cette musique, c'est du métal, du verre, de l'acier. On ferme les yeux et on entend, très loin d'abord, puis de plus en plus près, l'écho d'un cri. Comme le jazz, comme les complaintes du blues, la techno de Detroit transfigure les souffrances. Et cette authenticité de l'âme ne s'achète pas. Au début des années 80, Detroit était encore une terre d'expérience pour les compagnies de disques américaines. Considérant que si un artiste marchait à Detroit, il marcherait partout aux États-Unis, les majors déléguèrent une partie de leur pouvoir d'influence aux radios de la ville. C'est l'apparition des DJ radio, dont le rôle fut crucial pour l'avènement de nouveaux artistes et l'émergence de nouveaux courants musicaux. Tous les DJ et producteurs de la première génération techno de Detroit racontent encore aujourd'hui les émissions d'Electrifying Mojo, un DJ visionnaire qui mixait les nouvelles sonorités électroniques européennes avec les racines de la musique noire. Et tous reconnaissent son influence décisive. Mojo fut l'initiateur, mixant à une heure de grande écoute Prince et A Certain Ratio, Funkadelic, Kraftwerk, soutenant Visage, New Order, Pet Shop Boys, les B-52s, Falco ou le violoniste français Jean-Luc Ponty. Mojo est celui qui théorisa la techno de Detroit. Au milieu des années 80, un autre DJ émergea sur la radio de Detroit, The Wizard. Sa technique, son sens de l'innovation, sa science du mix et le mystère qui entourait sa véritable identité firent de lui une légende de la ville. Presque 20 ans plus tard, Jeff Mills, oui, c'est lui, reste pour tous les natifs de Detroit, The Wizard, le sorcier. L'actuelle génération hip-hop de Detroit a grandi avec The Wizard. Et les rares fois où il accepte encore de se produire à Detroit, on voit dans les salles une clientèle hip-hop qui d'ordinaire ne goûte pas la techno. On tend l'oreille, on se laisse conter ses histoires. Eminem et son possi sont venus écouter The Wizard. Le producteur J.D. était dans la salle accompagné du groupe Slum Village. J. Jeff Mills est un créateur incontournable de la musique de ces 15 dernières années, un visionnaire, un esprit éclairé de la techno et un master DJ, comme on dirait master musician. Il faut voir Jeff jouer derrière trois platines, se laisser séduire par sa gestuelle de félin et sa façon incomparable de diffuser une musique rêche, minimale et funky pour saisir l'investissement de cet artiste dans son art. Jeff Mills sera notre guide pour méditer sur ce que fut Detroit au début des années 80. Avec lui, nous arpenterons cette ville foudroyée par la crise qui passa en une génération de l'abondance au cauchemar urbain, enfantant au passage la dernière révolution musicale du XXe siècle, la techno. Jeff Mills. En 79, j'avais 16 ans. Mon frère aîné était DJ depuis plusieurs années. Il me laissait m'entraîner chez lui sur son matériel. Ensemble, on a commencé à envoyer des cassettes de mix à des radios de Detroit. C'est une démarche qui ne se faisait pas à l'époque. Sur ses conseils, en une année, j'ai dû envoyer une quinzaine de démos à la radio WDRQ sans jamais recevoir de réponse. Quand mon frère a décidé d'arrêter le DJing, il m'a légué son équipement et sa discothèque. J'ai installé tout ça dans ma chambre. Je m'entraînais plusieurs heures par jour. De 79 à 81, les premières rumeurs sur le hip-hop nous parvenaient depuis New York via Chicago. C'était l'apparition d'une culture de rue comprenant danse, graffiti, rap et DJing, avec des inventions fulgurantes comme le scratch. Une culture globale et communautaire créée par et pour les ghettos, for us, by us. Sur la côte Est, c'était l'avènement de Grandmaster Flash et de DJ DST. Sur la côte Ouest, celui de Dr. Dre et DJ Yellow. En Floride et dans le Mississippi, les bass stations, radio diffusant les débuts de l'électro et du Miami Bass, se multipliaient. Mais à cette époque, les vidéos de DJ Mix n'existaient pas. Et depuis Detroit, il était impossible d'obtenir les bonnes informations, de savoir comment les premiers DJ scratchaient et produisaient ces sons. On raconta que pour scratcher plus vite, il fallait enfiler des gants chirurgicaux. En quelques jours, tous les DJ du Detroit se sont retrouvés armés de gants blancs.
set a rock to the beat, set a rock to the beat, set a rock to the beat, set a rock to the beat.
Plus les infos nous parvenaient depuis New York, plus j'assimilais l'art du DJing, ingurgitant toutes les informations qui touchaient de près ou de loin à la musique. Patron de label, musicien à la mode, remixeur, figure de scratch, etc. À Detroit, on grandissait avec la musique. Dès l'âge de 14 ans, les kids sortaient dans des discos mobiles, discothèques itinérantes pour adolescents, et chaque tranche d'âge avait sa propre soirée. À 17 ans, j'ai commencé à avoir des engagements comme DJ dans des discos mobiles. Puis mon frère m'a présenté des gens influents dans le milieu de la nuit de Detroit. Des gens susceptibles de m'aider à développer mon art, de m'apprendre à jouer des disques dans le cadre d'un club, de concevoir une programmation musicale pour un public plus âgé. Mon frère avait arrangé un rendez-vous dans un club de downtown, le Lady, afin que je sois auditionné. Comme je n'avais pas l'âge légal pour rentrer dans ce club, 21 ans, j'ai dû passer par la porte de service et ramper jusqu'à la cabine DJ pour ne pas être vu par la sécurité. Il était à peine 22h. Le club était déjà bondé. Les patrons et DJ résidents du club m'ont rejoint dans la cabine. On m'a dit « Montre-nous ce que tu sais faire ». J'ai débuté mon mix en exécutant une figure qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Entamé le set en plein milieu du break d'un disque pour jouer ensuite avec une deuxième copie le début de ce même morceau. Je venais de gagner mon billet pour la semaine d'après. Les gérants du lieu ont accepté de me former. J'ai appris comment fidéliser un public sur tel ou tel disque, jouer un segment du disque, l'enlever, le rejouer une heure plus tard et ainsi construire un tube. Quel genre de disque je devais toujours avoir dans mes caisses afin d'anticiper toute situation, quel disque pouvait servir de transition, etc. En un mot, j'ai appris la psychologie du dance floor. Un enseignement auquel beaucoup de musiciens et DJ de Détroit n'ont jamais eu accès. Malgré mon jeune âge, j'ai hérité en quelques mois de 3 résidences dans des clubs de Détroit. Dans l'un d'eux, le UBQ, il y a eu un after show du Purple Rain Tour de Prince, alors en ville pour 7 dates. Coïncidence, le soir de cet after show, la radio WDRQ avait décidé de retransmettre la soirée en direct. J'avais reçu pour consigne de ne jouer que le son de la Galaxy Prince, chez la E, Vanity, The Times, etc. C'était la première fois que je passais à la radio. J'étais assez excité, j'avais préparé mon set plusieurs jours à l'avance. Quelques secondes avant le début de mon mix, l'animatrice radio s'est tournée vers moi. « Tu as un nom de scène ?» Je lui ai répondu « Mon meilleur ami m'appelle The Wizard. » Et elle d'annoncer « Here is live at WDRQ, this is The Wizard !» Le lendemain, j'ai appris que WDRQ avait obtenu sa plus importante audience depuis plusieurs mois. On m'a fait venir à la radio, passer un entretien pour un éventuel mix show et rencontrer le nouveau directeur de programme. Il venait de New York, voulait imposer le hip-hop à Détroit en créant un show spécial hip-hop sur WDRQ. On était 2 à être auditionnés. Après un set de 15 minutes, j'ai emporté le morceau. Le directeur m'a pris à part dans son bureau et m'a dit « On te connaît déjà à travers toutes les démos que tu nous as fait parvenir. » Il a ouvert un placard et là j'ai vu toutes les cassettes que j'avais envoyées répertoriées année après année. Ici, on va t'enseigner toutes les règles de la radio. J'ai appris à éditer les morceaux sur bande magnétique, à créer un programme. On m'a donné un budget, j'avais accès à toute la discothèque, je pouvais acheter tous les disques que je voulais. J'avais carte blanche. Pour un garçon de moins de 20 ans, c'était un cadeau inespéré. WDRQ avait besoin de gagner la compétition face à la radio rivale et le nouveau directeur avait choisi de miser sur moi. Voici ton studio, construit pour moi avec 3 platines. Voici ta réceptionniste, voici ton téléphone, à toi de jouer.
In the garden, where we used to play, as we held each other tight, the summer breeze sings a song of love. Do you remember me? The joy you used to bring in my body. Thank you.
À partir de novembre 82, WDRQ introduisit petit à petit The Wizard au public. Le but, l'imposer le soir du grand show du Nouvel An où il devait jouer un set radio de 9 heures. La radio fit beaucoup de publicité autour de moi. Je devais pouvoir être présent à l'antenne à n'importe quel moment de la journée afin de surprendre l'auditeur. À la radio, je me démarquais des autres DJ en créant des mix thématiques. Michael Jackson vs Prince, l'automobile vs Motor City, etc. Pour ces émissions, j'utilisais les archives de la radio. Je crois que mon attirance pour les concepts me vient de ces années-là. Pour préserver la part du mystère du Wizard, je n'avais pas le droit d'utiliser ce nom en club ou de révéler mon identité radio à quiconque. En parallèle, je continuais à tourner dans les clubs de la ville. Au début des années 80, Detroit possédait une scène de DJ très talentueux. Daryl Shannon, Delano Smith, Karl Martin, qui, sous l'influence d'Electrifying Mojo, amenèrent la nouvelle musique en provenance d'Europe, autrement dit la pop synthétique, dans les clubs. Puis en 81, un disque sorti, Share Vary, qui allait jouer un rôle clé dans l'élaboration de ce que deviendrait la techno de Detroit. Il fut produit par des étudiants de bonne famille de Detroit, deux garçons et deux filles, réunis sous le nom de A Number of Names. Il faisait partie d'un club privé pour étudiants baptisé Share Vary, qui organisait des soirées et avait gagné pas mal d'argent. Ils ont décidé de créer leur propre musique. Ils sont allés en studio, se sont inspirés du titre Moscow Disco du groupe belge Telex et ont enregistré Share Vary. Mojo en a fait un tube énorme à Detroit. Share Vary est le tout premier disque techno issu de Detroit. Mais personne n'avait encore prononcé le mot techno. Ça n'existait tout simplement pas. J'ai rencontré Ron Atkins juste après la sortie de Share Vary. Il avait déjà son groupe Cibotron, adoré Kraftwerk, qui avait publié le titre Clear. Après Share Vary, le son de sa musique a changé. Son groupe s'est séparé, les deux autres membres sont partis vivre en Californie pour faire de la pop. Juan a préféré rester. En 85, il a sorti No UFOs et Night Drive, deux formidables morceaux au son toujours très proche de Share Vary. À ce moment-là, tout a explosé. On parlait désormais de techno sans qu'on sache précisément qui avait lancé ce mot. Mais qu'importe, la nouvelle musique de Detroit avait une identité, une saveur particulière. Share Vary avait été le déclencheur et Juan Atkins devint le premier héros de la trinité techno. Suivront Derrick May et Kevin Sanderson. Mais ce petit monde ne se côtoyait pas, la ville était divisée en secteurs. D'un côté downtown, de l'autre les banlieues. C'était une époque où il y avait énormément de soirées à Detroit, depuis le jardin des voisins jusqu'au club du coin. Un dimanche soir, dans une Black Night où je jouais, Kevin Sanderson est venu à ma rencontre. On ne se connaissait pas. On ne gravitait pas dans les mêmes milieux. Beaucoup de scènes parallèles s'étaient développées au même moment, sans forcément se croiser. Kevin m'a donné un de ses premiers disques, qu'il avait publié sous le nom de Reese et Santonio. Il m'a aussi présenté Neil Rushton, patron de Network Records, le premier label à avoir publié la techno de Detroit en Angleterre. Quelques mois plus tard, Kevin Sanderson a sorti Big Fun et a cartonné. À cette époque, j'avais monté mon groupe de musique industrielle, The Final Cut. Nous avions publié quelques disques et j'avais le sentiment de ne pas avoir trouvé les bons partenaires en musique. C'est là que j'ai rencontré Mike Banks. Mike Banks, alias Mad Mike, est l'âme de Detroit Techno. Un guérillero urbain, un homme habité par la souffrance qui habite sa ville. Si Mike a choisi la musique pour combattre le quotidien, il puise son inspiration dans la tradition de la lutte afro-américaine des années 60. Mike est un résistant et un pur produit de la culture noire de Detroit, comme il l'affirme lui-même. Musicien, producteur, figure légendaire de la techno mondiale, Mike a choisi d'organiser sa lutte dans l'ombre, n'accordant aucune interview ni photo à visage découvert. Aux commandes du label Underground Resistance, Mike Banks diffuse une philosophie de guérilla dont les cibles sont les majors, le système ségrégationniste américain et le désespoir du ghetto. Depuis le building qu'il abrite le label Underground Resistance, la plateforme de distribution de tous les labels indépendants de Detroit, Submerge et les studios, Mad Mike poursuit un engagement à la fois social, sortir les jeunes de la délinquance, de la drogue et dénoncer le désastre économique de Detroit, à la fois social donc et artistique. Lorsqu'il parle, Mike Banks n'attend aucune question de son interlocuteur. Il compte Détroit d'une voix lente, grave, chargée de blessures intimes, et retrace l'épopée de sa créature, Underground Resistance. C'est Mike Banks qui parle. Jeff et moi, on voulait faire de grandes choses, comme tous les autres gamins de cette ville. Créer quelque chose de plus grand que ce qui t'entoure, être sur une major, gagner de l'argent, passer à la télé, avoir sa gueule dans les magazines, c'est une preuve de réussite ici. Jeff adorait la musique industrielle et moi, j'aimais tout ce que Jeff jouait car il a l'oreille la plus funky du monde. On s'est rencontrés dans un studio de Détroit, le United Sound Studio. Je faisais des sessions d'enregistrement avec d'autres musiciens, Ray, aujourd'hui dans Underground Resistance, Mike Pierce et Scott Christes. On était des musiciens de studio capables de jouer toutes sortes de musiques, R&B, funk, musique d'église, gospel. Notre groupe avait été signé sur Motown, mais le label a voulu nous baptiser Four Girls Only, ou une connerie dans le genre, et faire de nous un boys band. On voulait nous fourguer des vêtements à la Prince, qu'on se maquille. On devait avoir 23 ans ou 24 ans. On s'est dit, si c'est ça qu'il faut faire pour y arriver, fuck off. Motown a gelé nos accords et on est devenus musiciens de studio pour le reste de la durée de notre contrat. Ça nous a permis de travailler avec George Clinton, David Spradley, qui a écrit Atomic Dog, Hamm Findler, ou le révérend Thomas Whitfield. À cause de cette expérience malheureuse avec Motown, on avait un goût amer dans la bouche. C'est là que j'ai rencontré Jeff Mills. Jeff aussi avait un mauvais goût dans la bouche. Musicalement, il était excellent, mais les choses tournaient au vinaigre avec son groupe Final Cut. En plus, un black qui joue de la musique industrielle, ça n'avait pas de sens. Jeff avait une façon incroyablement rapide de travailler la musique. Comme le R&B est une musique qui exige de la précision, nous, on était habitués à passer jusqu'à 3 mois sur un morceau pour obtenir exactement les harmonies voulues. C'est précisément pour ça que la musique de Kraftwerk nous fascinait. On essayait de reproduire leurs morceaux sur nos guitares. On ne savait pas que c'était des machines qui produisaient ces sons. Quand on a appris que tout ça a été fait par ordinateur, on a commencé à se plonger dans la technologie. On utilisait les pauses déjeuner pour enregistrer. Jeff est venu nous filer un coup de main sur l'édit de certains morceaux. On a commencé à se voir plus souvent, à travailler régulièrement ensemble. On aimait tous les deux Public Enemy pour leur façon de refuser de rentrer dans le jeu des show niggers. Tu vois, nous les Noirs en Amérique, il faut toujours qu'on soit déguisés, grimés, qu'on porte des paillettes, qu'on fasse les clowns si on veut pénétrer le music business. Moi, je venais d'une famille de sportifs et de travailleurs. Chez moi, on était contre cette merde de show niggers. J'ai été éduqué dans un cadre où on refusait les fringues qui brillent, tous ces trucs de macro parce que vivre dans le ghetto ne veut pas dire se comporter comme un Mac. Dans ma famille, on m'a inculqué une valeur, le travail. Mac, pute, dealer, c'était pas un modèle. Je suis devenu très dur vis-à-vis de ce genre de personnes quand j'ai grandi. Les showboat niggers, comme je les appelais, pour moi c'était rien d'autre que de la chair à canon. Et c'est pour ça qu'un groupe comme Public Enemy m'a immédiatement parlé. Il y avait une telle puissance, une telle efficacité chez eux. Leur logo, c'était une cible avec une silhouette au milieu. Ce qu'ils voulaient dire à l'establishment blanc, c'était « cette silhouette-là, c'est moi. Je me suis délibérément placé dans la cible. Si vous avez les couilles, tirez. » On les a poursuivis en justice pour ça. Jeff, on a réalisé qu'on travaillait bien ensemble, qu'on partageait le même état d'esprit. C'est là qu'on a créé le concept de You Are, en notre grande résistance. You Are est né de Public Enemy pour la puissance et d'un amour pour la précision allemande de Kraftwerk. Quand on s'est associé, Jeff était au sommet de sa renommée avec son double radio The Wizard. Il a commencé à jouer Public Enemy sur WJLB, la plus grande radio black de Detroit. Les dirigeants lui ont demandé d'arrêter, mais en traînant avec moi, Jeff était devenu un résistant. Il avait mon soutien et celui de mes gars qui étaient pour la plupart des membres de gang. Jeff a ignoré les mises en garde. Il a continué à jouer Public Enemy chaque soir sur WJLB. La radio a raccourci ses émissions. De 2 heures, l'émission a été ramenée à 1 heure, puis à 30 minutes, jusqu'à ne plus durer que 15 minutes. Et là, Jeff a démissionné. Ce fut la fin du Wizard. Ça nous a fait mal. Et je crois que ça a nui à la progression et à l'ouverture de la musique à Détroit. You Are est né de cette mentalité de combat. Elle est la continuation d'une longue lutte et a choisi d'utiliser la technologie à sa disposition pour faire avancer cette lutte. À travers You Are, on voulait tous exprimer par le son, pas besoin de photos. On était contre tout ce qu'il fallait accepter pour devenir célèbre. Comme Jeff et moi, on était des musiciens de studio, des gens de l'ombre, on a décidé que si les gens voulaient nous rencontrer, ce serait pour notre musique, pas pour voir nos visages ou la couleur de notre peau. On sortait des années 80 où beaucoup d'artistes noirs s'étaient fait refaire le nez ou blanchir la peau. Fuck that, si un mec ne sait pas à quoi tu ressembles, il s'en foutra de te rencontrer tant qu'il aime ta musique. C'est Detroit et toute l'expérience de l'Amérique noire qui a enfanté Underground Resistance. You Are était une prolongation de la lutte continuelle de la vie de tous les jours. Je crois que l'inspiration dépasse les générations. Jeff et moi, on a souvent parlé de ça. Notre musique nous dépasse. Parfois, je compare la musique à ce qu'un vampire obtient du sang qu'il suce, la vie éternelle. L'énergie qu'on transmet reste et pourra toucher d'autres gens dans 200 ou 300 ans. Je suis sur cette terre pour inspirer d'autres gens. Peut-être aussi des gens qui ne sont pas encore sur cette terre. Maintenant, c'est Jeff Mills qui parle. Au commencement de You Are, on se réunissait avec Mike et on discutait de ce qu'on voulait faire. Derrick May, Juan Atkins et Kevin Sanderson nous avaient raconté leur expérience malheureuse avec les labels européens. Big Fun et Good Life de Kevin Sanderson étaient sortis sur des majors, et l'histoire avait un peu tourné au vinaigre. C'était clair pour nous, on ne voulait absolument rien avoir à faire avec les majors. On avait tous les deux l'expérience de deal avec des majors, et nous nous étions fait arnaquer. C'est de là qu'est venu le nom d'Underground Resistance. Littéralement, fonder une résistance à l'Overground. Avant de commencer à faire de la musique ensemble, on a surtout réfléchi à la direction qu'on voulait prendre. Notre approche militante de la techno nous vient de Public Enemy, mais cette façon de conceptualiser notre musique a pour l'origine la radio. Pour qu'un show devienne important à la radio, il faut être différent, prendre les gens à contre-pied. C'est ça qu'on a appliqué à You Are. J'avais accès à de bons studios d'enregistrement, je possédais une bonne connaissance du son, j'avais des machines, je maîtrisais l'editing. Je pouvais aussi bien jouer en DJ pour une soirée hip-hop que pour une soirée house. Mike, lui, a apporté la soul dans notre musique et une façon unique de jouer des claviers. Il possédait une bonne connaissance des vocaux et a soufflé une certaine patience dans la narration des morceaux. Toutes mes machines et tous ces claviers ont donné naissance à un studio incroyablement équipé. À l'époque, on ne travaillait pas sur ordinateur. Notre studio était configuré pour nous permettre de travailler sur plusieurs morceaux en même temps. On avait une façon très simple de travailler au sein de You Are, des rôles bien distincts. D'abord, on mangeait du poulet et ensuite, on dissertait autour de ce que voulait faire. On écrivait les parties instrumentales ensemble. Mike jouait les lignes de clavier et sortait du studio pour me laisser préparer le mix sur la console de mixage. Il revenait pour réaliser le mix final et je finissais seul l'édit définitif du morceau. On a travaillé selon cette répartition des rôles durant toute notre période de collaboration, depuis le premier disque de You Are, Your Time Is Up, publié en 1990, jusqu'à The Punisher en 1992. We'll be right back. Cette année-là, on a produit un groupe de Detroit, Members of the House. Le disque était paru en licence sur le label anglais React. Comme il marchait bien en Europe, le groupe a été engagé pour une date en Angleterre. Les membres de Members of the House étaient des gars du ghetto, pas toujours gérables. Mike a décidé de les accompagner en Europe, tandis que moi, je suis resté à Détroit. C'était la première fois qu'on était séparés plus d'une semaine. Pendant l'absence de Mike, j'ai écrit The Punisher, le premier disque que j'ai réalisé seul sur You Are. À cette période, Derrick May et Blake Baxter commençaient à tourner en Europe et nous rapportaient des informations délirantes. J'ai joué en Belgique devant 15 000 personnes. Ça nous paraissait dingue. Moi, je n'avais été qu'une seule fois en Europe et je n'avais aucune idée de ce qui se passait là-bas. Entre-temps, Detroit était passé de l'ébullition musicale à une lente dérive. Les artistes avaient déménagé les uns après les autres pour Chicago, New York ou la Californie. Le hip-hop et le gangsta rap étaient devenus énormes à Detroit. Et les radios ne jouaient plus de techno. Les mix radio étaient désormais confiés à des jeunes, sans background musical et sans expérience de studio, qui ne faisaient même pas la distinction entre le hip-hop et le gangsta rap. Progressivement, celui-ci s'est imposé comme le genre majoritaire et a totalement changé la mentalité du jeune public. Il y avait de plus en plus de drogues, de gangs, la rue est devenue de plus en plus agressive et le public de moins en moins ouvert. En 92, Jeff Mills quitta Underground Resistance et s'installa à New York. Mike Banks continua son combat, s'entourant d'une nouvelle garde, Drexia, Ox 88, James Pennington, DJ Rolando, etc. Mais Detroit replongeait dans les ténèbres.
This is Drexian Cruiser Control, Bubble 1, to Lardosian Cruiser 8-203X. Please decrease your speed to 1.788.4 kilobytes. Lardosian Cruiser 8-203X, please use extra caution as you pass the Aqua construction site on the side of the Aquabahn. I repeat, proceed with caution.
Le taxi perce des quartiers désertés, longe d'interminables hangars plantés au milieu de nulle part, des blocs de tôle défoncés giflés par le vent glacial, dernier témoin d'une époque révolue, où ce quartier était le Rungis de Détroit. J'aperçois des carcasses de camions abandonnés sur d'immenses parkings que même la végétation semble s'être refusée à envahir. Tout autour, la solitude. Des graffitis aperçus trop rapidement se détachent sur les carcasses des bagnoles qui crèvent là. On raconte que la nuit, l'Unknown Writer erre le long des immeubles désaffectés de Détroit. Il parcourt les quartiers abandonnés, les zones sinistrées, les rues du ghetto et peint ses textes, slogans, pamphlets ou poèmes, sur les murs crasseux de la ville. Underground Résistance a largement diffusé les textes de l'Unknown Writer, les imprimant sur les macarons des disques pour propager sa poésie urbaine aux accents politiques et lucides. Do not allow yourself to be programmed. La conversation s'engage avec le taxi. Il me demande « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» J'hésite, je réponds « Des gens à rencontrer. » « Ça fait longtemps que je voulais venir ici, vous savez, il y a des choses que je veux comprendre. » Silence. Puis il répète « Longtemps ?»« Longtemps. » Une voix traînante, comme s'il goûtait la saveur du mot dans sa bouche et murmure « Vous êtes venu pour comprendre Detroit alors ?» Il me prévient « On va faire un détour, il y a quelque chose que vous devez voir. » C'est à quelques miles. Ne vous inquiétez pas, je ne vous chargerai pas pour ça, my pleasure. Du dehors, j'entends des vibrations de basse qui frappent, sans en trouver l'origine. Le taxi se faufile dans la nuit. Quelques néons clignotent. Chapelle baptiste et autres maisons défoncées par les intempéries alternent avec des débits d'alcool. Plus loin, une crack house. Je devine au cœur de l'obscurité des silhouettes qui bougent. Sur des kilomètres, ce même alignement. Église, débit d'alcool. Crack House. Le paysage change brutalement et le taxi ralentit. Dans les phares de sa Ford Model T, se dessinent les murs d'immeubles éventrés bariolés de fresques. Une immense toile tendue sur les murs d'un building de briques délavé annonce « Vous entrez dans la zone de paix de Heidelberg Project ». Sur les murs, le sol, les carcasses de voitures abandonnées, des poèmes prônant la non-violence et le respect, sont peints en lettres rondes. Le chauffeur se tourne vers moi. Ici, c'est une zone de trêve. Ça doit être l'un des seuls endroits de Détroit où les gens se saluent, viennent prier ensemble. Detroit, c'est aussi ça. Il y a de la violence, mais aussi de l'espoir. Puis le taxi redémarre, traversant le même paysage désaffecté pour retourner à Downtown. Ça sent la mort, la drogue, la violence, la solitude. La ville semble vivre un couvre-feu permanent. Le centre-ville de Détroit est déserté, hormis le périmètre de Greektown qui regroupe hôtels de luxe, restaurants et boutiques destinés aux touristes. Une ville fantôme. Les rares piétons que l'on croise se retournent sans arrêt pour vérifier s'ils ne sont pas suivis. À Detroit, les voitures qui patientent au feu rouge surveillent les types qui traversent, au cas où ils sortiraient un flingue. C'est le quotidien de Downtown, qui court jusqu'aux portes de 8 Mile Road. 8 Mile Road est le nom donné au périphérique qui sépare deux mondes bien distincts. À l'intérieur, Downtown, où vit 80% de la communauté noire. À l'extérieur, les banlieues middle class blanches épargnées par les gangs, la drogue et la violence. Lorsqu'une voiture conduite par un black sort de Downtown, transite par 8 Mile et se dirige vers les banlieues blanches, le conducteur voit de loin clignoter les gyrophares des flics de la DPD installés à la frontière des deux mondes. C'est invariablement le même scénario. Le véhicule est stoppé, son chauffeur interrogé. Où vivez-vous? Où allez-vous? Et rappelé à l'ordre. N'oubliez pas que vous devez bientôt rentrer chez vous. C'est Mike Banks qui parle. C'est tellement con ce qui se passe avec cette ville. Le désir de voir se construire quelque chose de neuf est déjà mort avant de naître. Je peux pas me permettre de me sentir heureux ou même satisfait parce que je sais que dans une semaine ou deux, quelqu'un d'autre se fera descendre. Si tu te laisses aller à être heureux par ici, quelque chose vient te foutre en l'air. En même temps, j'aime cette ville pour sa couleur particulière. Rien n'est tout à fait normal par ici. Par exemple, tu vas acheter des crevettes. Bonjour, une livre de crevettes, s'il vous plaît. Le mec te répond. On n'a pas de crevettes. Il y a un énorme panneau, vente de crevettes. Devant, mais le mec te répond calmement, on n'en a pas. C'est fou quand même. Mais j'ai appris à adorer tout ça. C'est comme à l'église. Quand j'étais enfant, je ne comprenais rien de ce que disait le prêtre. Il parlait de la lutte entre le bien et le mal. J'écoutais ce qu'il racontait et je me disais, ouais, c'est ça, à cause toujours. Puis j'ai vieilli et ce thème de la lutte entre le bien et le mal m'est revenu. J'ai compris que c'était vrai. C'est un monde de vampires ici. Public Enemy a écrit « Knights of the Living Base Heads ». C'est exactement ça. Quand la nuit tombe, il y a plein de types qui sortent pour chercher leur cam. On peut les voir rôder comme des vampires qui cherchent du sang. Ils traînent dans les rues à la recherche de leur dose. Lorsque le soleil se lève, ils rentrent se cacher. Quand la Bible évoque les possédés, des dingues prisonniers de leurs deux personnalités comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on jurerait qu'elle parle de types sous héroïne. Aujourd'hui, quand je vais à l'église, je comprends mieux ce que me raconte le prêtre. Parce qu'entre-temps, j'ai vécu, j'ai vieilli par ici et j'ai appris à ne pas juger les gens. C'est ce que dit la Bible. Ne juge pas ton prochain.
Le Chat Noir Productions vous a présenté Electrochoc.
On se donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de ce chapitre. D'ici là, gardez les bonnes vibrations. Retrouvez l'émission sur le forum. Le chanoir.forumactif.com http://lechanoir.forumactif.com et ça s'écrit lechanoir.forumactif.com et deux fois par mois le mercredi soir sur Radio Campus Bordeaux 88.1.